Lecture Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury.
Et en partenariat avec la Procure, nous reprenons le feuilleton Piaf, un cri vers Dieu avec vous, Pierre Fesquet, qui avait écrit ce livre aux éditions Salvator. Nous avons vu la foi d'Édith Piaf, nous l'avons en quelque sorte mesurée. Résumons, une implacable dévotion à Sainte Thérèse ayant miraculeusement recouvré la vue dans l'enfance, une foi profonde dans le Christ et ce message thérésien, il n'y a pas d'amour sans souffrance. Votre livre, Pierre Fesquet, redonne l'envie de prier Sainte Thérèse.
Merci Christophe.
Alors, elle rencontre les compagnons de la chanson. Qui sont-ils à ce moment-là?
Les compagnons de la chanson, ils sont issus des compagnons de France.
Ouais.
Et elle les découvre sur la scène de la Comédie Française un soir. On est en 44. Et puis, le rideau de fer tombe parce qu'il y a un bombardement dans Paris. Tout le monde va se retrouver sur scène à l'invitation de Jean-Louis Barrault. Les artistes présentent chacun une chanson. Et elle voit ses compagnons qui sont des boy scouts au départ, mais qui miment. Eux, ils miment la chanson. Ils vont mimer la chanson de la chanson.
C'est un gala de soutien aux cheminots à
absolument.
L'époque.
Absolument.
C'était déjà une soirée de bienfaisance.
Hein, exactement.
Je vous ai coupé, mais c'était...
Il faut le dire.
Rappeler que ce contexte-là, dans lequel ils sont intervenus pour la première fois,
oui,
et effectivement...
C'était pour les enfants cheminots orphelins, parce qu'il y avait eu beaucoup de bombardements sur les voies ferrées, à ce moment-là. Et quand Édith voit les compagnons, elle a un coup de cœur, et elle leur dit, il faut qu'on travaille ensemble. Ils sont sous l'égide d'un homme qui s'appelle Louis Liébard, et qui ne l'entend pas de cette oreille, qui leur dit, vous êtes fait pour le folklore, vous n'allez pas partir avec la môme Piaf. Il va y avoir une scission au sein des compagnons de la musique, ils vont devenir compagnons de la chanson, et Piaf les emmène en 47 aux États-Unis.
Alors elle les secoue, les manage, et chante avec eux les trois cloches qui feront un triomphe, notamment en tournée aux États-Unis. On va d'abord écouter les trois cloches, ensuite on va parler de cette tournée aux États-Unis, mais avant, j'aimerais, Jean-François Rode, que vous nous parliez du dernier paragraphe que nous allons écouter des trois cloches. Nous l'écoutons et après vous allez nous en parler parce que c'est fondamentalement thérésien. On écoute.
Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré, voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nicole, il se nomme, il est joufflu tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain tu seras baptisé. Une cloche sonne, ça voit d'écho en écho. Dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico. Une âme, une fleur qui s'ouvre, à peine une flamme, un peuple qui réclame protection, tendresse, amour.
Village au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains, voici qu'après 19 années, cœur en émoi. Jean-François prend pour femme la douce Élise, blanche comme fleur de pommier. Devant Dieu, dans la vieille église, ce jour il se sent marié.
Toutes les cloches sonnent, voix d'écho en écho. Un seul cœur, une seule âme, le prêtre est pour toujours. Soyez une pure flamme qui s'élève et qui proclame la grandeur de votre amour.
Voici quand la nuit étoilée, un cœur s'endort, François est mort. Car toute chair est comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs. Épis, fruits mûrs, bouquets et gerbes, hélas, toi, serait séchant.
cloche sonne, sonne. Elle chante dans le vent, obsédante et monotone. Elle redit aux vivants, ne tremblez pas, cœur fidèle.
La vie de Jean-François Nicot résumé dans cette chanson. Jean-François Rode, oui, protection, tendresse, amour, et puis le message final qui est très thérésien.
Oui, absolument, mais c'est une chanson qui a été un succès, je crois qu'on va en parler, c'est un succès formidable. Et en fait, c'est vrai, quand on écoute ces paroles, on pense forcément aussi encore à Thérèse. Bon, il y a cette allusion à la fleur des champs, les psaumes, hein, qui disent, bon, l'homme est comme une fleur qui fane dans une journée. Bon, ça renvoie quand même à Thérèse, qui voulait être une petite pâquerette, qui ne fane pas, justement, parce que il s'agit de ce qu'elle a découvert en disant, bon, quand je regarde la vie des saints, des grands saints, moi je ne suis pas, je n'ai pas le courage de ces saints-là, je n'ai pas l'héroïsme des saints, je vais jamais y arriver. Mais par contre, il y a quelque chose que je peux faire, moi, c'est aimer, et c'est ma petite voix. Par cette petite voix, je peux trouver rendre grâce au Seigneur.
C'est donc, Thérèse qui dit ça, ou c'est Édith Piaf?
C'est Thérèse. Oui, on finit.
Christophe, bien sûr, mais les mots sont ici. Absolument. La fidélité de Dieu, c'est l'éternité de l'amour qui est défini même.
Je rebondis, de même que Piaf est un oiseau, et oui. Que Thérèse dit, Seigneur, je suis ton petit oiseau, mais je voudrais devenir voler avec les aigles. Voilà, et là aussi.
Deux femmes tellement différentes. Hein, une carmélite qui meurt à 24 ans dans son Carmel, et Piaf qui mène une vie effectivement un peu tourmentée, un peu désordonnée même quelquefois. Mais c'est incroyable,
cette
proximité.
Mais qui chante le mariage, un seul corps, un seul âme, dit le prêtre, et pour toujours, soyez une pure flamme qui s'élève, qui proclame la grandeur de votre amour. Elle chante ça. Ouais. Et c'est magnifique.
Et elle dira souvent aux couples artistes qui sont restés fidèles, combien vous avez de la chance.
Alors, il y a l'amour de Dieu que vous décrivez très bien, Pierre Fesquet dans Piaf, un cri vers Dieu chez Salvatore. Raymond Asso est au sang-coup lorsqu'il la voit paraître de retour dans sa loge. Où étais-tu? J'étais fou d'inquiétude à Notre-Dame des Victoires. Tu ne pouvais pas aller à Notre-Dame de Bonne Nouvelle qui est à côté? Non, Notre-Dame des Victoires, c'est l'église préférée de Thérèse. Et puis, j'étais angoissée tout à l'heure, très nerveuse, mais après avoir prié, je me sens très calme et j'ai prié pour nous deux. Un jour, il lui fait ce reproche, cette manie que tu as de mêler Dieu à tout, et elle de répondre, je n'ai pas besoin de le mêler à tout, puisqu'il est dans tout. Dit Édith Piaf à Raymond Asso. Alors, l'amour de Dieu, et quand les deux sont imbriqués si humainement, eh bien, on va l'avoir dans la prière écrite par Michel Vauquer et Charles Dumont. C'est un tube, mais c'est formidable.
Mon Dieu, laissez-le-moi encore. Laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu.
Michel Vauquer et Charles Dumont, La prière, mon Dieu, chantée par Édith Piaf. Alors, on entend très bien le piano de Charles Dumont,
oui, hein,
qui ensuite est repris par le chœur. Comment s'est passée la rencontre avec Charles Dumont, Pierre Fesquet?
Ah ben Charles Dumont, elle l'a éconduit deux fois. Il avait gagné un prix à la radio. Elle lui a dit « je suis pas un cheval de course ». Elle avait ouvert la porte, elle lui a refermé la porte au nez. Puis la troisième fois, il avait aucune envie d'y aller avec Michel Vauquer. Il lui présente « non, je ne regrette rien ». Et il me l'a raconté, Charles Dumont, il était très énervé, il est allé au piano, il m'a dit « j'ai tapé comme un sourd ». Et c'est ce qui a peut-être donné le rythme, la marche. Le rideau est tombé, elle l'a regardé, elle lui a dit « jeune homme, ne vous inquiétez pas, cette chanson fera le tour du monde, elle deviendra votre carte de visite ».
Et alors ensuite, il écrit La prière, oui. Mais c'était pas du tout les paroles.
Pas du tout, ça devait s'appeler Paris, le Havre, Hambourg.
Oui.
Et elle rentre dans une colère terrible, et elle dit à Michel Vauquer et Dumont « retravaillez-moi tout ça, sinon je vous vire ». Ça, c'est pas fait pour être... voilà, c'est pas des bonnes paroles. C'est une prière, ce que vous m'avez écrit. Faites-moi les paroles d'une prière.
Alors cette prière, on pense naturellement à Marcel Cerdan, évidemment.
Bien sûr.
Les deux amants partageaient une même foi, semble-t-il. Vous savez qu'à la suite du décès du boxeur, elle se coupe les cheveux comme une nonne et elle entre en religion de l'amour, le temps de se fabriquer des souvenirs. Et elle n'aura plus du tout la même coupe de cheveux. Donc quand on voit des photos, si c'est les cheveux courts, c'est après le décès de Marcel Cerdan.
Oui, elle a complètement changé. Et Charles Dumont me disait, à la fin de sa vie, elle ne parlait que de Marcel Cerdan.
Et Charles Dumont va lui donner envie de changer quelque chose dans sa carrière, de changer quelque chose dans sa musique et dans sa prise de parole. Et elle va le déclarer à la radio notamment, c'est qu'elle se remet complètement en question à ce moment-là. Et Charles Dumont lui permet de changer. Et après, non rien de rien, ils vont enchaîner les tubes. Et je vous propose de les écouter tous les deux, c'est forcément Les Amants.
Yeah. que tu m'aimais, que je t'aimais, que l'on s'aimait. Quand les amants entendront cette chanson, c'est sûr, ma belle. J'entends toujours, j'entends ton rire, quand quelquefois je te disais, si un jour tu ne m'aimais plus, si un jour on ne s'aimait plus, tu répondais, c'est impossible, et tu riais, eh bien tu vois, tu n'aurais pas dû rire. Quand les amants entendront cette chanson, c'est sûr, ma belle, c'est sûr qu'ils pleureront. Ils écouteront que tu m'aimais, que je t'aimais, que l'on s'aimait. Quand les amants entendront cette chanson, c'est sûr, ma belle, c'est sûr.
Charles Dumont et Édith Piaf qui interprétaient Les Amants. Alors Charles Dumont, c'était un compositeur, un pianiste. Il n'était pas là du tout pour chanter. Pourquoi il se met à chanter?
Ah ben parce que et il va chanter sur ordre de Piaf. Il n'en a aucune envie. Elle lui dit, bah, tu prends la porte, tu ne me reverras plus. Bah, il a été bien obligé de chanter avec elle.
Et aujourd'hui, à 94 ans, il chante tout le répertoire.
Ah oui, il fait le tour du monde encore. Oui, Japon, Canada. Et le public chante, non, je n'aurai rien avec lui. Comme Piaf le lui avait prophétisé.
J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu. Nous avons parlé des Compagnons de la Chanson et nous avons écouté Les Trois Cloches. Ils sont partis aux États-Unis avec ça. Et puis là, ça s'est très mal passé aux États-Unis.
Oui, parce que les Compagnons ont fait plus de succès que la vedette. Piaf, il y avait le barrage de la langue. La petite robe noire, elle disait, ma robe noire, c'est comme le voile de Thérèse.
Alors, c'est une. Ça, c'est quand même quelque chose.
Ça, c'est quelque chose
d'incroyable. Elle n'a jamais voulu s'habiller autrement. Qu'avec une en disant ça,
enfin,
c'est,
qui a quand même,
c'est comme le voile de Thérèse
qui a quand même été dessiné par Balmain, hein.
mais
elle n'en avait qu'un seul exemplaire. Donc, aux États-Unis, ça se passe pas très bien,
non.
Et ils vont devoir se dissocier.
Exactement. Les Compagnons partent en Californie, ils partent enfin aux États-Unis. Ils auraient même pu faire une carrière américaine. Et Édith, elle va quand même rester aux États-Unis. Elle va prendre un coach pendant un mois. Elle va travailler son anglais. Et un mois après, elle est au Versailles dans une robe alors noire, un peu bleutée, avec quelques paillettes. Et là, elle triomphe au Versailles. Voilà. Mais la collaboration avec les Compagnons durera. Ils n'ont pas été froissés les uns les autres.
Et elle retournera souvent à New York.
Oui.
Pourquoi les Compagnons ont davantage séduit les Américains immédiatement?
Parce qu'ils avaient donc un numéro de chansons visuelles. Ils faisaient des chansons sketch. Ils mimaient beaucoup. Donc il n'y avait pas besoin de traduire les paroles.
Voilà. Un peu comme les frères Jacques.
Exactement. C'était un peu dans cette mouvance-là.
C'était dans cette même énergie.
Exactement.
Lorsque Édith Piaf retournera aux États-Unis, ça sera vraiment un triomphe, un triomphe terrible. Et elle continue toujours à chanter sa foi, avec notamment des paroles que je vous cite des paroles de d'Assaut, et je les cite, c'est l'histoire de Jésus qui du ciel est descendu et qui sur la croix mourut et du tombeau disparut. Bienheureux ceux qui ont cru. Quand il a parlé d'amour, tout le monde est resté sourd. Pour qu'on le comprenne mieux, il a crié vers les cieux, Seigneur, faites-moi souffrir, Seigneur, faites-moi mourir, chargez-moi de leurs péchés afin qu'ils soient pardonnés. C'est l'histoire de Jésus sur une musique de Mono. C'est quand même très fort. Edith Piaf qui chante, et alors là c'est complètement thérésien, hein. Seigneur, faites-moi souffrir, Seigneur, faites-moi mourir, chargez-moi de leurs péchés afin qu'ils soient pardonnés.
Vous citez cette comparaison d'une chanson de Piaf et un poème de Thérèse. Donc au moment où elle retourne, elle repart du côté de Pigalle, et dans une vie, elle est retournée dans son Pigalle, il n'y a plus personne pour la repêcher. Elle a retrouvé tous ses péchés, ses coins d'ombre et ses trottoirs sales. Et le poème de...
Ça, c'est la chanson de Raymond Asso.
Ouais, c'est la chanson. Elle fréquentait la rue Pigalle. Et on peut vous citer ce texte de Thérèse. À mes pieds, Madeleine, tu trouveras toujours, pour consoler ta peine, un doux regard d'amour.
Mais oui.
Mais oui, mais on a un parallélisme incroyable entre ces deux femmes. Hein. C'est-à-dire que l'une est devenue un peu le héros de la première.
C'est très bien vu, exactement.
Et en même temps, elle s'en nourrit.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, alors là, on est dans le mystère, hein, un certain nombre d'interventions de Thérèse. Elle demande quelque chose, elle l'obtient. Elle va voir Thérèse, elle va prier pour que Cerdan soit le champion du monde de boxe. Et ben, il devient le champion du monde. Elle l'obtient. Et toujours avec le parfum de rose.
C'est ça, c'est ça.
Donc
on a fait ça dans une autre émission. À un moment, on a reparlé des miracles de Thérèse, parce qu'il y a une femme historienne spécialiste qui a fait l'école des Chartes, etc., qui a puisé dans toutes les archives du Carmel de Lisieux, où il y a, tenez-vous bien, 14 000 lettres de gens disant avoir reçu quelque chose de Thérèse, un miracle ou un petit coup de pouce ou un moment formidable. Et 14 000, et ça a commencé avant qu'elle ne soit vénérable. La pluie de roses, elle a dit donc cette fameuse formule, ouais. Hein, je passerai mon ciel à faire tomber sur la terre une pluie de roses. Et en fait, ça accompagnait Thérèse toujours, et Piaf aussi.
Et, oui. Et comme je l'ai dit en début d'émission, Piaf Esquet, votre livre Piaf, un cri vers Dieu, publié chez Salvator, donne envie de renouer avec le culte de Sainte Thérèse et donne envie de retourner à Lisieux pour aller prier Sainte Thérèse, bien sûr, mais pour emmener Edith Piaf dans la poche. Parce que c'est vraiment très troublant.
C'est très troublant.
Alors il y a avant vous, il y avait un livre que vous citez abondamment.
Oui.
Qui s'appelle
La Sainte et la Pécheresse.
La Sainte et la Pécheresse.
Duc Vassal. Hein.
Duc Vassal et Jacqueline Cartier.
Exactement.
C'est publié chez Anne Carrière. La Sainte et la Pécheresse. C'est bon. On a complètement les deux phases. Et c'est très important de peut-être méditer Sainte Thérèse à travers Edith Piaf, pourquoi pas.
On se le disait, c'est bien connu que par exemple un Montand était extrêmement frappé oui. lorsqu'il voyait
Piaf prier.
Le comédien Paul Meurice aussi dit la même chose, elle n'était plus de ce monde quand elle priait. Et quand elle apprend la mort de Cerdan, elle va avoir cette phrase sublime, il est mort dans le ciel, donc il y est.
Oui.
Elle était connectée avec l'éternel, avec le ciel.
Alors, elle avait vraiment elle impressionnait les gens quand elle exprimait cette foi, quand elle priait devant eux.
Oui, mais ce qui est extraordinaire, comme pour Thérèse, c'est que c'est purement intuitif. Et un commentateur dira qu'elle mélange tout, parce qu'effectivement elle va rentrer chez les Rose-Croix,
oui.
Et qu'elle n'a pas le catéchisme de base.
Je ne savais pas ça, moi.
Oui,
les Rose-Croix cette entrée dans les Rose-Croix.
C'est après la mort de Cerdan, elle cherchait tout. Ouais. Elle a même fait tourner les tables. Quand elle avait donc le Dréjac qui avait composé Sous le ciel de Paris, qui lui a dit qu'il faisait partie des Rose-Croix, elle a dit mais moi je suis à la recherche de Dieu, j'entre chez les Rose-Croix pour rechercher Dieu et la petite Thérèse.
Et elle ne regrette rien. C'est ce que nous entendons, ce générique de fin. Je rappelle votre livre, Pierre Pesquet. Piaf, un cri vers Dieu, publié chez Salvator. Merci à vous deux, Jean-François Rode, Pierre Pesquet. Merci à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Louis-Marie Picard, Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour poursuivre notre rencontre avec vous, Pierre Fesquet, pour votre livre Piaf, un cri vers Dieu chez Salvator, et puis pour passer du temps à la fois avec Thérèse de Lisieux et Edith Piaf. Bonne semaine.
Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.